Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 12 août 2022. Nous allons tout de suite vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Réduction de la part du dollar dans les réserves de change des banques centrales du monde. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Rebonjour. Au sommaire de ce journal, chaque partie de la résistance peut à elle seule briser l'ennemi. Déclaration du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khomeini, à l'adresse du secrétaire général du mouvement de la résistance palestinienne, le djihad islamique. L'Iran examine la fiabilité de la proposition européenne dans trois domaines, à savoir les sauvegardes, les sanctions et les garanties. Et puis, Bolton, les campagnes de désinformation et les machinations iranophobes ne rendront que plus honni le visage du régime américain. Déclaration de Téhéran. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le leader de la révolution islamique d'Iran a félicité les Palestiniens pour leur résistance contre les toutes récentes attaques meurtrières israéliennes visant la bande sous blocus de Gaza. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a salué le mouvement du djihad islamique de la Palestine pour sa résistance courageuse. Il a déclaré que la volonté et la détermination inébranlable palestinienne a su neutraliser le complot trompeur du régime d'occupation et qu'elle continue à renforcer le poids de la résistance. L'ayatollah Khamenei a déclaré que de par ses efforts et sa détermination, le mouvement du djihad islamique a prouvé que chaque faction de la résistance pouvait à elle seule mettre l'ennemi à genoux. Le leader de la République islamique d'Iran a également salué l'unité entre les groupes de résistance basés dans la bande de Gaza sous blocus israélien depuis 2007 et ceux de la Cisjordanie occupée. Il a souligné la nécessité de maintenir cette unité. L'ayatollah Khamenei, s'attardant sur le fait qu'Israël est en déclin, s'est félicité du renforcement croissant de la résistance. Il a réitéré le soutien de l'Iran au peuple palestinien. Le leader de la révolution islamique a fait ses remarques en réponse à une lettre du secrétaire général du djihad islamique de la Palestine, Ziad al-Nakhala, qui a salué le soutien continu de l'Iran aux Palestiniens dans leur lutte contre le régime israélien et pour défendre la cause palestinienne. Les propositions de l'Europe sont acceptables si elles donnent confiance à l'Iran sur diverses questions, y compris les demandes politiques liées aux questions de sécurité, aux sanctions et aux garanties, a déclaré à l'IRNA un diplomate iranien proche du processus de négociation à Vienne. La République islamique d'Iran examine les propositions reçues pour s'assurer que ces demandes sont satisfaites, a déclaré le diplomate iranien sous couvert d'anonymat. Et de poursuivre, l'Iran doit vérifier si ces propositions garantissent les demandes de l'Iran dans divers domaines, notamment les revendications politiques liées aux sauvegardes, aux sanctions et aux garanties de stabilité de l'accord, et si elles peuvent être rassurantes dans ces domaines. Il y a quelques heures, le Wall Street Journal, citant un diplomate européen, a affirmé que l'Union européenne avait fait des propositions sur la question des accords de garantie. Mais comme l'a dit le diplomate iranien, cette proposition devrait être rassurante pour l'Iran, d'une part, et d'autre part, elle couvre tous les sujets discutés à Vienne. Le dernier cycle de négociations visant à lever les sanctions s'est terminé la semaine dernière à Vienne. L'Iran a annoncé qu'il discuterait des allégations politisées liées aux accords de garantie et aux assurances crédibles. Parallèlement, Mohammad Jamshidi, député politique du bureau présidentiel iranien, a également déclaré sur Twitter, en faisant référence aux récents entretiens d'Ebrahim Raisi avec plusieurs dirigeants des 4+1, signataires du plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, à savoir la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Dans toutes les conversations téléphoniques de M. Raisi avec ses homologues français et chinois, sa position décisive est la suivante. L'accord final peut être atteint si et seulement si les questions liées aux accords de garantie sont résolues et closes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d'avancer dans un geste de fuite en avant des histoires montées de toutes pièces pour échapper à leurs responsabilités internationales. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, réagissant aux récits américains inventés de toutes pièces sur un élément politique en faillite, un terroriste connu, et un comploteur de coups d'État contre des pays et des gouvernements indépendants, les a qualifiés de fuite en avant dans le but d'échapper à la responsabilité d'un crime international et a souligné « La poursuite des tapages et des machinations iranophobes ne peut que ternir davantage le visage du régime américain, de plus en plus honni et déshonoré ». Dans son tweet, le diplomate iranien Nasser Kanani a déclaré que les machinations trompeuses ne peuvent pas blanchir l'image des États-Unis. Mercredi, le département américain de la justice a proféré des accusations criminelles contre un ressortissant iranien pour avoir prétendument tenté d'orchestrer l'assassinat de l'ancien conseiller à la sécurité nationale américain, le belliciste John Bolton. Le département américain de la justice a prétendu que le projet était probablement en représailles au meurtre en 2020 du haut général iranien Rossem Soleimani, ordonné par les États-Unis. Il a déclaré que le ressortissant iranien avait payé un individu aux États-Unis pour tuer John Bolton. John Bolton est connu pour son implication dans les coups d'État américains à l'étranger, un fait reconnu par lui-même. Le porte-parole iranien a déploré le fait que les États-Unis s'adonnent à la fabrication des histoires montées de toutes pièces pour un terroriste et un comploteur de coups d'État contre des États indépendants. Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud al-Boussaïdi, ont eu une conversation téléphonique sur les questions régionales et internationales et les sujets d'intérêt commun, ainsi que sur les pourparlers de Vienne sur le dossier nucléaire iranien. Amir Abdollahian a transmis les salutations du président Ayatollah Raisi au sultan omanais Haysam bin Tariq et a exprimé à cette occasion sa reconnaissance pour les vues et les efforts d'Oman dans les négociations pour lever l'embargo. Les deux parties ont discuté des derniers développements dans les négociations de Vienne. Le ministre Omane a déclaré que l'Iran a joué un rôle constructif dans les négociations de Vienne, ajoutant qu'Oman est convaincu que le succès des pourparlers profitera à toutes les parties. En ce qui concerne les droits du peuple palestinien, le ministre Omane des Affaires étrangères a déclaré qu'Oman a toujours soutenu la reconnaissance des droits et des aspirations du peuple palestinien et continuera à les soutenir. Enfin, l'Iran construit 3 autres versions du satellite Khayyam. Le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori Jahromi, a déclaré que la construction de 3 autres versions du satellite Khayyam, avec la participation de scientifiques iraniens, est à l'ordre du jour du gouvernement. Les entreprises iraniennes, basées sur la connaissance, utiliseront les images et les données de Khayyam à des fins scientifiques diverses, a-t-il dit. Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Réduction de la part du dollar dans les réserves de change des banques centrales du monde. Dans un rapport, le Fonds monétaire international FMI a annoncé que la part du dollar dans les réserves de change mondiales est tombée à moins de 59% et qu'au cours des 2 dernières décennies, ces tendances sont maintenues à la baisse. Le Fonds monétaire international a annoncé que les réserves de change mondial totales à la fin de 2021 s'élevaient à 12 920 milliards de dollars. Les réserves de change mondial à la fin de 2021 ont diminué de 92 milliards de dollars par rapport aux 3 mois précédents. À la fin du 3e trimestre de 2021, les réserves de change totales du monde avaient été annoncées à 12 828 milliards de dollars, a ajouté la source. Selon le rapport, la part du dollar américain dans les réserves de change totales du monde à la fin de 2021 était de 58,8%. L'euro, avec une part de 20,5%, et le yen japonais, avec une part de 5,5%, étaient respectivement les 2e et 3e monnaies les plus importantes dans les réserves de change du monde. La part du yuan chinois dans les réserves de change mondiales était de 2,8%, la livre sterling de 4,8%, le dollar australien de 1,8%, et le dollar canadien de 2,3%. D'autre part, les monnaies nationales de petites économies qui n'ont pas traditionnellement une part importante de réserves de change, comme les dollars australiens et canadiens, la couronne suisse et le won sud-coréen, ont pris les 3/4 de la part perdue du dollar américain dans les réserves de change mondiales. En outre, les données du Fonds monétaire international montrent que d'ici à la fin de 2021, un seul pays, à savoir la Russie, disposera de près d'un tiers des réserves de change mondiales.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le djihad islamique et le Hamas se partagent la tâche pour transformer Israël en un enfer intenable pour les Israéliens. Justement, le Hamas et le Hezbollah libanais qui ont marqué au cours de ces 2 dernières années des avancées militaires considérables ont donc décidé de mettre en application leur menace contre Israël. Et Israël n'a d'autre choix que de se soumettre à la raison. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Les condamnations affluent à la suite des récentes frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza. Réagissant au crime, le secrétaire général du Hezbollah libanais a condamné l'agression israélienne, affirmant que le régime de Tel Aviv est fondé sur le crime et le massacre. Saïd Hassan Nasrallah a salué les groupes de résistance palestinienne pour avoir su faire face aux attaques, notant qu'ils ont prouvé qu'Israël est fragile et qu'il peut être facilement vaincu et humilié. Il a qualifié l'attaque du régime sioniste contre Gaza d'erreur de calcul d'autorité israélienne et a poursuivi: le régime sioniste a fait une erreur dans ses évaluations et ne pensait pas que le djihad islamique répondrait à leur acte de terreur. La résistance a sans aucun doute le dessus. La rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a également fustigé la dernière série d'agressions israéliennes contre la Palestine. Les États-Unis, cependant, ont pleinement soutenu Israël, justifiant sans surprise les attaques comme un moyen de légitime défense. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que le régime d'apartheid israélien devait assumer la responsabilité des conséquences de l'escalade de la crise à Gaza et dans les territoires palestiniens. Dans des lettres adressées au ministre des Affaires étrangères des pays musulmans, au secrétaire général de l'ONU, au secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique OCI, au président du mouvement des non-alignés MNA et au secrétaire général de l'Union africaine, Amir Abdollahian a exprimé la profonde préoccupation de l'Iran concernant les attaques brutales du régime israélien d'apartheid contre la bande de Gaza, le meurtre de civils, y compris d'innocents enfants, tout en condamnant les crimes et l'agression du régime israélien contre le peuple palestinien, malgré l'inaction des organisations internationales. Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti que le régime occupant de Tel Aviv est entièrement responsable des conséquences de l'intensification de la crise à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par André Chamy, juriste international depuis Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Un grand bonjour à M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède. M. Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Ahmad Rami. Vous êtes avec nous depuis Stockholm. Alors, vous êtes connu pour toujours avoir défendu la cause palestinienne dans votre vie, également dans votre radio en Suède. Alors, pour ma première question, les crimes commis par le régime sioniste n'en finissent pas. Mais cette fois, la donne est différente car le Hamas, qui a marqué des avancées militaires considérables, et depuis qu'il a décidé de mettre en application ses menaces contre Israël, cela a beaucoup changé, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Comme je l'ai toujours dit, c'est la puissance, la force d'Israël vient de nos faiblesses. Et plus on devient fort, plus la force de l'occupant, la force injuste de l'occupant sioniste devient faible. Et maintenant, la résistance commence à devenir plus forte grâce justement au soutien de la République islamique d'Iran qui est aujourd'hui à la tête dans le monde entier des pays qui soutient la justice, qui est en fait une cause internationale et mondiale, pas seulement des musulmans, mais des chrétiens et de toutes les religions dans le monde, parce que la question palestinienne est la question centrale de toute l'humanité. Et en réalité, l'Occident aussi, la libération de la Palestine passera certainement par la libération de l'Occident et de tout le monde entier de la domination sioniste, parce que le manque de soutien du monde entier à la question palestinienne, qui est une question mondiale, une question de la justice mondiale. C'est ce qui fait, en fait, maintenant, ce qui permet à la domination et à l'occupation sioniste d'exercer des massacres et des crimes contre l'humanité en Palestine.
Oui, merci. André Chami, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous êtes juriste international, donc vous êtes bien placé pour répondre à cette question que depuis des décennies, le régime sioniste commet des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza et partout dans la Palestine occupée. Et quand il s'agit de la défense de son territoire, il semble que c'est un crime pour ceux qui soutiennent le régime sioniste. Mais alors que le régime sioniste, quand ils attaquent et tuent des innocents et des civils, c'est la défense de soi. Que pensez-vous ?
Le principe de la légitime défense est un principe international qui est bien connu et consacré par tous les traités internationaux et notamment par la charte de l'ONU. La question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si le peuple palestinien est en état de légitime défense. La question est de savoir si le monde entier doit assumer ses responsabilités et rétablir une paix durable, juste et qui rend au peuple palestinien ses droits sur son territoire et surtout lui permet d'avoir ce qu'on appelle de récupérer son droit à l'autodétermination, c'est-à-dire ce qu'ils veulent eux en tant que Palestiniens sur leur terre, avec leur population et bien entendu avec le monde qui les entoure. Cette équation n'a jamais été traitée en réalité. Il y a eu des décisions au fur et à mesure par l'Assemblée générale de l'ONU. Les décisions du Conseil de sécurité ont toujours été bloquées par les vétos américains, ce qui explique actuellement qu'il n'y a pas de décision internationale valable qui a été prise à l'encontre de l'État sioniste ou de l'entité sioniste afin de faire cesser cette situation. Et j'ai presque envie de dire, c'est tant mieux pour le peuple palestinien. Dans quel sens? Parce qu'en réalité, pendant des décennies, le monde entier parlait de la solution de deux États. En disant, l'ONU a reconnu l'existence de deux États, sauf que l'ONU a été particulièrement inspirée en disant l'État palestinien serait à tel endroit, mais sans fixer des limites, et l'État sioniste, en tout cas Israël, serait à tel endroit sans fixer ses limites. Et aujourd'hui, bien entendu, si l'on regarde la carte, le rêve, si j'ose dire, palestinien, se trouve totalement anéanti. Par conséquent, les Palestiniens n'ont d'autre choix. Aujourd'hui, ceux qui parlent parmi les Palestiniens de paix juste et d'avenir et de paix avec leurs voisins israéliens, aujourd'hui, ils en ont pour leur argent parce qu'ils ont découvert que toute cette salade racontée sur la paix et sur l'existence de deux États ou la coexistence de deux États n'était qu'une salade, pour ne pas dire un mensonge grossier et grotesque animé par les Israéliens et commercialisé par les Américains. Aujourd'hui, il y a une certitude, c'est qu'il ne peut pas y avoir deux États. La question est de savoir donc comment rétablir les droits du peuple palestinien. Et ça va être automatiquement au détriment de ceux qui sont venus s'installer sur leur territoire. C'est une question d'équation inévitable, pour ne pas dire impossible à éviter. Les Palestiniens, donc, ils ont compris, dans leur majorité aujourd'hui, malgré les tentatives de Arafat par le passé et l'insistance, si j'ose dire, de Mahmoud Abbas et de l'autorité palestinienne, aujourd'hui les Palestiniens, dans leur majorité, ont compris qu'il n'y a qu'une seule solution pour retrouver leurs droits, leur dignité, leur honneur et leur territoire, c'est la lutte armée, dont ils avaient été privés pendant de longues années à cause des négociations avec Arafat. Aujourd'hui, ces négociations n'existent plus, la solution pacifique n'existe plus. Et la lutte armée a commencé. Évidemment, il n'y avait qu'un seul pays qui avait à l'époque soutenu la lutte armée pour permettre au peuple palestinien de retrouver et de recouvrer ses droits, c'est la République islamique d'Iran, c'est incontestable. Dès l'annonce de l'existence de la République islamique d'Iran, il y a eu une annonce en parallèle, c'est la suppression de l'ambassade d'Israël à Téhéran et le remplacement de cette ambassade par une ambassade destinée ou dédiée à la Palestine et a été confiée, si je veux dire, à Arafat à l'époque.
Tout à fait.
Mais Arafat n'avait pas la reconnaissance réelle pour l'Iran, et c'est la raison pour laquelle il s'est éparpillé, il est parti dans tous les sens. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est la lutte armée, et cette lutte armée a commencé et se poursuivra jusqu'à la libération des territoires palestiniens et son retour au peuple palestinien, lequel décidera de son sort et de son avenir à travers ses propres institutions et à travers ses propres responsables politiques et à travers ses propres institutions politiques, en l'occurrence les partis, les mouvements, dépendants du peuple palestinien et non pas de l'ONU et des États-Unis.
Tout à fait. Justement, vous avez évoqué la confrontation. J'aimerais beaucoup connaître l'avis de M. Ahmad Rami qui est avec nous depuis Stockholm. Alors, M. Ahmad Rami, dans vos interviews, vous avez toujours évoqué le lobby sioniste qui empêchait l'avancée des choses, l'avancée de la paix au cours de ces 5-6 décennies, dernières décennies. Alors que maintenant, le djihad islamique et le Hamas ont décidé de passer à l'acte seuls, donc, et que parce qu'à maintes reprises, ils ont dit que le régime sioniste ne connaît que le langage de la force. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. André Chami quand il parle de la confrontation qui est inévitable ?
Je suis absolument, totalement d'accord avec lui, parce que Israël, entre guillemets, n'est qu'une occupation. Ceux aujourd'hui qui s'appellent Israël sont tous venus de l'étranger, sont pas de la Palestine. Donc il n'y a pas une occupation dans le monde qui est une occupation claire et nette que cette occupation. C'est un problème, donc chaque problème a une solution. Chaque occupation provoque une résistance. C'est automatique. Quand il y a une occupation, il y a une résistance. Parce que les occupés n'ont d'autre choix que la résistance. C'est leur existence. Hein. Et bien sûr, l'occupant, comme dans tout le monde entier, dans tous les temps, dans toutes les occupations, ils agissent, c'est leur, disons, de leur... leur massacre, leur répression font partie de cette occupation. Donc en réalité, il n'y aura d'autre solution que la fin d'Israël. Il n'y aura pas deux États parce que c'est Israël, la différence entre cette occupation et les autres occupations dans le monde, c'est que les sionistes ont transformé cette occupation en idéologie, en une religion, mais en fait c'est une occupation classique. Le peuple palestinien, il n'a pas d'autre. Les Palestiniens ne sont pas venus d'autres pays, ils sont de la Palestine. Et alors, ils n'ont pas d'autre par où aller. Donc, les Palestiniens n'ont d'autre choix que de résister jusqu'à à la solution juste et stable, c'est-à-dire en fait il n'y aura pas au Moyen-Orient en général de paix qu'une paix de stabilité que sous une solution juste qui est la fin de l'occupation. Ben, chaque problème a une solution.
Absolument.
Et la solution de ce problème c'est la fin de l'occupation.
Absolument. Maître Chami, donc vous dites que la confrontation est inévitable et on pense que la forme de cette confrontation a beaucoup changé depuis ces dernières années car maintenant le Hamas et le djihad islamique disposent bien sûr des missiles et des drones sophistiqués qui permettent vraiment de menacer directement et transformer Israël en un enfer. Que pensez-vous ?
Vous savez, les Israéliens gagnaient, si j'ose dire, les guerres contre le monde arabe, pour parler un peu de manière raccourcie. C'est parce qu'ils menaient une guerre classique. Ils disposent effectivement de l'armée la plus puissante, dans le sens où cette armée est particulièrement dotée des meilleurs matériels militaires, avec un soutien sans faille de la part des États-Unis, ce qui leur permettait systématiquement de reprendre le dessus et effectivement d'infliger des défaites aux pays de la région. Il y a une équation qui a été établie par le Hezbollah pour désigner le responsable direct de la disparition de ce qu'on appelle l'armée invincible. C'était grâce aux opérations des Hezbollah et à la guerre qui a été menée par les Hezbollah à partir de 1982-1983 jusqu'à l'année 2000, l'année où les Israéliens ont dû quitter le Liban sans pouvoir négocier quoi que ce soit, sans pouvoir assurer leur arrière, sans pouvoir assurer même la protection de leurs propres collaborateurs. C'était un départ d'échec et c'était un départ surtout de lâcheté, parce qu'ils n'avaient d'autre choix que de fuir. Et ils ont fui pendant la nuit pour éviter justement de continuer de subir les attaques. Ce premier échec militaire a donné le la à la nature de la guerre qui allait avoir lieu. Et cette guerre s'est poursuivie grâce à ces principes-là, c'est-à-dire les guerres asymétriques. Et le Hezbollah l'a démontré en 2006 et a donné l'exemple à l'ensemble des mouvements de résistance palestiniens, c'est-à-dire pendant ce temps-là, les Palestiniens ont dû se doter des moyens nécessaires pour pouvoir mener cette guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique se poursuit. Et en 2008, il y a eu les premières confrontations qui ont démontré que Gaza peut résister et peut même bouter les Israéliens en dehors de ses limites territoriales. Et depuis, les Israéliens se trouvent en situation d'échec parce qu'ils n'ont pas de solution militaire au problème, entre guillemets, de Gaza. Et le pire, c'est que aujourd'hui, ce n'est plus le problème de Gaza. Aujourd'hui, c'est le problème de Gaza. C'est le problème des territoires qu'on appelle de 48, mais également de la Cisjordanie, parce que la Cisjordanie, qui était en quelque sorte le fief de l'autorité palestinienne, mais compte tenu de l'échec de l'autorité palestinienne face aux Israéliens, parce que la négociation d'une paix de lâche n'a pas marché et n'a pas été supportée par les Palestiniens, parce qu'ils ont compris que pour avoir des droits, je dirais, insignifiants, il fallait qu'ils collaborent avec les Israéliens, il fallait qu'ils deviennent en quelque sorte les subsidiaires des Israéliens, ce que les Palestiniens ne voulaient pas. Et aujourd'hui, l'autorité palestinienne se trouve en situation d'isolement, tant de sa population que des Israéliens, parce que c'est une autorité qui n'a plus de pouvoir. Et évidemment, tout cela a donné une perspective au peuple palestinien dans toutes ses dimensions et surtout dans toutes ses présences territoriales. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une vision, et il y a une perspective, il y a une volonté, et surtout qu'il y a une hargne au sein des peuples, des combattants palestiniens, parce qu'aujourd'hui, ils sont capables, ils savent qu'ils peuvent gagner cette guerre, et ils y arriveront. Et évidemment, cette guerre, soit elle sera circonscrite, si j'ose dire, à l'intérieur du territoire palestinien, soit elle aura une autre forme, ce que je pense, moi, personnellement, c'est-à-dire c'est c'est une guerre ou une grande bataille qui va avoir lieu entre l'axe de la résistance et cette entité palestinienne et qui aboutira à la disparition de l'idéologie sioniste, parce que Israël n'existerait que s'il y a une idéologie sioniste, et la disparition de l'idéologie sioniste parce que ses promoteurs auraient quitté ce territoire, et c'est ce qui permet en quelque sorte cette espèce de basculement, et ce qu'a appelé Saïd Hassan Nasrallah le départ avec les valises de ces Israéliens, entre guillemets, qui sont venus s'installer dans ces territoires-là. Aujourd'hui, ils devraient commencer à préparer leurs valises, parce que c'est la préparation de ces valises-là qui est en perspective pour eux, ils n'en ont pas d'autres, parce que cette bataille va être menée, et cette bataille sera gagnée par l'axe de la résistance, c'est incontestable, je dirais, c'est une loi de la nature.
Oui, et Ahmad Rami, comme a dit Maître Chami, la vie s'est arrêté en Israël, les bus et les trains ne circulent plus. Est-ce que vraiment il est temps, donc, avec cette grande force du Hezbollah et du djihad islamique, que l'Israël revient à la raison? Est-ce qu'il ne serait pas temps?
Oui, Monsieur André Chami l'a dit, ce n'est pas seulement une guerre en Palestine, c'est en réalité une guerre mondiale, parce que le sionisme est une idéologie. La définition de l'idéologie, c'est quoi ? L'idéologie, c'est une idéologie, c'est une image de la réalité. Ce n'est pas la réalité, c'est comme un tableau, quoi. C'est une image de la réalité, une image sioniste que les sionistes ont de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Eux-mêmes, ils le savent, parce que la majorité des sionistes sont à l'étranger de cette occupation. Ils sont aux États-Unis, le lobby AIPAC, en France, le lobby aussi sioniste en France et dans tous les pays. C'est-à-dire que les sionistes, en fait, s'ils occupent la Palestine militairement, ils occupent tous les pays, ou bien ils essayent d'occuper tous les pays politiquement, culturellement, économiquement.
Monsieur Ahmad Rami,
ils ne sont pas seulement en Palestine, mais dans le monde entier, quoi.
Monsieur Ahmad Rami, on a une forte impression de croire que le lobby sioniste n'a plus le panache et la force qu'avant, avec justement l'avancée militaire du Hamas.
Oui, parce qu'en fait, le Hamas et les Palestiniens, en réalité, luttent aujourd'hui au nom de toute l'humanité. Parce que la résistance aussi augmente aux États-Unis, le peuple américain, en France, hein, en Allemagne, en Russie. Cette occupation a ses racines et ses soutiens dans l'idéologie sioniste qui existe, qui a toujours existé dans tous les temps, et qui est même à l'extérieur de la Palestine. Par exemple, maintenant, ils occupent les États-Unis, ils occupent la France, et la libération de la Palestine, comme je l'ai toujours dit, viendra en réalité par la libération des États-Unis, de la France, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Angleterre. Tous les pays, les grands pays aujourd'hui, sont occupés, même les pays arabes, la majorité des pays arabes, ce qu'on appelle les pays arabes, les musulmans, sont aujourd'hui aussi occupés par le lobby sioniste. Donc c'est une guerre en réalité qui va se dérouler dans le monde entier. Aujourd'hui, on ne le dit pas ouvertement, mais dans la réalité, on le voit. On le voit qu'il y a une résistance.
Absolument.
Dans tous les pays.
Tout à fait, tout à fait. Maître Chami, en une minute pour terminer, comment vous prévoyez l'avenir de cette confrontation, peut-être même dans les semaines à venir?
Aujourd'hui, il est incontestable que l'antisioniste se trouve dans l'impasse, parce qu'elle cherche par tous les moyens à sortir de cette impasse-là. C'est la raison pour laquelle les derniers cadeaux, si j'ose dire, que Donald Trump leur a fait pour leur faire croire qu'ils pourraient vivre en sécurité, c'est de créer un phénomène de normalisation avec un certain nombre de pays arabes, et notamment les pays du Golfe, qui étaient en situation de normalisation, que ce soit avec la Jordanie, le Maroc, le Sultanat d'Oman, et puis on a mis en avant le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et bientôt ça va être l'Arabie Saoudite. Cette normalisation-là ne pourra pas avoir d'impact sur une solution dans la région, et en tout cas une solution à l'impasse dans laquelle se trouve l'entité sioniste. Pourquoi ? Parce que le danger ne vient pas de là-bas. Le danger vient directement de la frontière avec l'axe de la résistance, c'est-à-dire avec les Palestiniens eux-mêmes, avec les Syriens, avec les Libanais. Or, à ces endroits-là, aucune solution n'a été trouvée. Bien au contraire. Ce qui s'est passé, c'est que, à travers les provocations qui ont été commises, à travers les guerres qui ont été menées dans ces pays-là et dans ces territoires-là, c'est-à-dire la guerre qui a été menée contre la Syrie pour la déstabiliser et détruire ce pays, les guerres qui ont été menées contre le Liban et les guerres qui ont été menées contre le peuple palestinien et plus particulièrement contre la bande de Gaza, se sont retournées contre l'antisioniste, parce qu'aujourd'hui, ces territoires se trouvent totalement renforcés et sont capables maintenant de mener des attaques. Et c'est la raison pour laquelle les menaces de Saïd Hassan Nasrallah sont à peine voilées pour dire que nous nous rencontrerons non plus à la frontière, nous nous rencontrerons à l'intérieur des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire à Jérusalem, pour aller y prier. c'est un symbole, mais ce n'est pas un symbole qui est une image. Non, c'est une réalité qui est en train de se réaliser et qui va être concrétisée. Et ça, je dirais, ça met la peur dans le ventre l'ensemble de la population israélienne. Et c'est ce qui, aujourd'hui, constitue le plus grand danger, parce que leur premier échec est un échec politique et moral.
Absolument.
Mais également, c'est un échec militaire, parce que tôt ou tard, cette confrontation est annoncée et aura lieu.
Absolument.
Et sera gagnée par l'axe de la résistance.
Absolument. Maître André Chamy, juriste international depuis Alsace, merci beaucoup d'avoir apporté des précisions à cette émission. Un grand merci à Ahmad Rami, qui est directeur de Radio Islam depuis Suède. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Parole d'expert.
Le média sioniste Inet a annoncé qu'Oman n'avait pas encore donné son accord au passage de vols israéliens dans son espace aérien, alors que les autorités israéliennes ne s'attendaient pas à une telle décision après que les Saoudiens aient autorisé les vols israéliens à traverser l'espace aérien saoudien. Cette décision de Mascate intervient peu après la visite moyen-orientale de Biden, sur laquelle ce dernier avait beaucoup misé, afin de convaincre les pays du Golfe Persique de normaliser leurs relations avec le régime sioniste. Comment peut-on interpréter cette démarche de Mascate? Est-ce une énième échec de l'axe US-Israël?
Alors, je dirais que dans un premier temps, il faut replacer les choses dans leur contexte pour nos téléspectateurs, auditeurs, à savoir que l'une des raisons, alors officiellement la raison de la visite de Biden, on le sait tous, c'était de venir quémander une augmentation de production journalière de pétrole afin d'avoir quelque chose à ramener auprès de son électorat putatif à l'aune des élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre, vu que l'explosion des prix à la pompe rend les choses extrêmement compliquées pour un parti qui prétend être du côté des travailleurs. Bon, ça, c'est déjà la base. Mais au-delà de cette demande, il y avait aussi, ça a été affirmé de manière assez explicite durant le sommet de Jeddah, l'idée de créer une espèce de d'alliance, alors des gens disent un OTAN arabe, ou un système intégré de défense aérienne, enfin bon, bref. Cette suggestion a été a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de la part de tous les participants de la région au sommet, ce qui laisse entendre que le consensus des pays arabes participants au sommet de Jeddah était qu'il est absolument hors de question de se laisser aller, de se laisser entraîner dans une politique de belligérance vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et cela demeure quelque part la pierre d'achoppement des relations dans la région, entre les pays de la région. Alors après, vous avez évoqué spécifiquement Oman dans un premier temps. Alors Oman, n'oubliez pas que Oman joue un rôle crucial dans les négociations, si on peut parler de négociations dignes de ce nom, entre la coalition d'agression menée par l'Arabie Saoudite et le Front National du Salut. Donc dans ce contexte-là, il serait vraiment malvenu pour Oman, au travers d'une concession qui n'est pas justifiée de quelque manière que ce soit, malgré bien sûr une approche fondamentalement ouverte à entendre les propositions des uns et des autres. Mais pourquoi est-ce que Oman irait jusqu'à rendre, comment dirais-je, l'intégrité de son positionnement politique régional caduque en acceptant une proposition de cette nature quand fondamentalement on connaît les positions du Front National du Salut vis-à-vis de l'entité sioniste? Elles sont fermes et elles sont de principe, ils n'en ont jamais fait secret, et cela pourrait mettre en péril donc cette légitimité politique en tant que pays tiers, pays ami qui souhaitent avoir des relations équidistantes, de bon voisinage avec ses voisins, de se mettre dans une position absolument intenable. Donc je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que déjà, il n'y a pas d'accord de normalisation malgré la pression tout azimut faite dans ce sens. Et on s'aperçoit que les Omanais font bien d'être extrêmement prudents, puisqu'on s'aperçoit que effectivement, l'Arabie Saoudite a fait une concession le mois dernier en ouvrant son espace aérien aux vols civils israéliens. Mais ces vols civils israéliens cachent quelque chose d'autre. Ils cachent quoi ? Ils cachent le fait que ça permettrait aux Israéliens de se rendre dans une région du monde, donc l'océan Indien, qui stratégiquement pourrait leur permettre de faciliter des opérations de déstabilisation de la République islamique d'Iran. Donc il faut marcher vraiment, on marche sur des charbons ardents là. Les pays, encore une fois, participant à la conférence de Jeddah, doivent prendre conscience que les Israéliens utiliseront tous les moyens détournés et camouflés pour avancer leur objectif, qui est celui de rendre inopérant l'expression de la souveraineté populaire et de la souveraineté tout court de la République islamique d'Iran en tant que pays, en tant que civilisation qui a toujours eu un rôle prééminent dans la région. Les Israéliens, qui plus est, et le représentant saoudien auprès des Nations Unies permanent dans ses discussions de passer un petit peu en revue l'état des choses du régime de non-prolifération de 1970, l'a répété en disant que les Israéliens n'obéissent pas aux résolutions que plus de 190 pays ont ratifiées du régime de non-prolifération que 190 pays de l'ONU ont ratifié. Donc qu'est-ce que cela laisse entendre ? C'est que les Israéliens, en fait, se contrefichent du droit international. Ce sont des roufiens, des pirates, des gens qui considèrent que les règles ne s'appliquent jamais à eux, et qui sont toujours, en fait, un facteur de déstabilisation. Donc ils se servent des uns et des autres pour pouvoir faire avancer leur agenda au niveau stratégique, régional, qui est, n'oublions pas, de défaire l'Iran comme rival principal à son hégémonie dans la région. Les Israéliens, il faut comprendre l'essence de l'entité sioniste, c'est la suivante, c'est qu'ils n'ont pas de frontières prédéterminées, il n'y a pas de constitution. Donc on ne sait pas exactement ce que c'est que ce régime. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un régime qui ne se définit pas dans l'espace et qui ne rentre pas dans un processus de respect des droits les plus fondamentaux des pays avoisinants, sans parler bien sûr de l'occupation qui est le péché originel, ne peut pas en l'état prétendre présenter un visage avenant quand il s'agit de normaliser des relations avec, que sais-je, un pays à l'est ou un pays au nord ou un pays ou que sais-je. L'idée pour les Israéliens, c'est de toute façon de se débarrasser de tous les rivaux régionaux, réels ou imaginés, dans leur esprit collectif, afin d'asseoir leur suprématie et de devenir la superpuissance régionale qui ensuite redistribuerait les cartes en termes d'exportation d'énergie, de façon à consolider leur influence dans le monde. Influence dont on peut dire qu'elle est néfaste, puisque d'un pays qui ne respecte pas les règles de la communauté internationale est un pays voyou, c'est un État voyou, c'est un État terroriste. Donc, tant qu'on n'a pas remis les choses dans le bon sens, tant qu'on n'a pas remis le sens des mots là où il doit être défini et non pas en prenant des pincettes, toute autre discussion n'a absolument aucune raison d'être. Et l'Arabie saoudite, je pense, se fourvoie dans ce contexte-là, parce qu'ils ne peuvent pas ignorer que l'initiative de 2002, présentée par le roi Abdallah à l'époque, n'a jamais été mise en œuvre. Les Israéliens font mine de négocier et en parallèle, ils créent une réalité sur le terrain, de telle sorte qu'ensuite, ils imputent la non-avancée du processus de négociation, quel que soit le format, sur les Palestiniens, en disant que les Palestiniens ne veulent pas négocier ou les Palestiniens ne sont pas des partenaires fiables. Ça, c'est leur justification. Et ensuite, ils peuvent rétroactivement justifier leur violation patente, leur absence de bonne foi quant à la colonisation, le processus de colonisation dans les territoires. Partant de là, il est absolument inconcevable pour l'Arabie Saoudite de penser que les Israéliens vont revenir au terme de l'initiative de 2002, qui, je le rappelle, repose sur le retrait à la ligne verte après le conflit des six jours en 67. On en est bien loin. Le paysage politique israélien a complètement évolué de telle sorte qu'on est maintenant en présence de, voilà, de gens qui sont des extrémistes, il faut le dire, hein. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre quelque part le positionnement de l'Arabie Saoudite.